La meilleure défense de la démocratie, ce sont ses lois. Mais si l'on vient nous attaquer, chaque citoyen doit se battre comme un soldat.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Aujourd'hui, on débute une nouvelle série. Les Athéniens ont-ils inventé la démocratie? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine, du lundi au vendredi à 14h, à podcaster soit chronique après chronique, soit dans la totalité de la série, qui est aussi diffusée le dimanche soir à 21h sur France Inter. La démocratie, un mot, un système politique qui, bien longtemps après Athènes, a fait rêver et mobiliser les humains et qui a connu un développement mondial exponentiel. D'ailleurs, les progressistes de la seconde moitié du XXe siècle le croyaient voué à un avenir assuré pour tout le genre humain. Même si, on le savait, ce système était loin d'être parfait, comme le remarquait Churchill en 1947 en mâchonnant son cigare, la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Mais aujourd'hui, en ce premier quart de XXIe siècle, la réalité mondiale ne prête pas à l'optimisme. Dans un rapport publié en 2025, un institut de recherche suédois révèle que pour la première fois depuis plus de 20 ans, le monde compte plus d'autocratie que de démocratie. Alors que plus de la moitié de la population mondiale, il y a 20 ans, vivait sous un régime démocratique, l'équilibre, en 2025, bascule largement du côté des autocraties, où vivent presque les trois quarts des habitants de la planète. Et pour couronner le tout, la tentation autoritaire semble gagner du terrain. De nombreux citoyens n'ayant plus confiance dans leur gouvernement ni dans la politique, et oublieux sans doute des leçons de l'histoire, se disent prêts à goûter au pouvoir autoritaire. La démocratie serait donc en danger. Alors, est-ce que sur le sujet, les citoyens d'Athènes, par-delà les siècles, auraient par hasard quelque chose à nous dire, à nous apprendre, voire sans que nous tombions dans les pièges de l'idéalisation ou de l'anachronisme? C'est justement de la démocratie athénienne, de sa naissance, de son apothéose et de son déclin, pas aussi rapide qu'on l'a souvent dit, que nous parlons dans le fil de l'histoire cette semaine avec vous, Vincent Azoulay. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de l'Antiquité grecque, auteur notamment chez Armand Collin de Périclès, la démocratie athénienne à l'épreuve du grand homme, qui a reçu en 2011 le prix du Sénat du livre d'histoire.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
C'est à toi, au Palace Athénée, ô déesse, que je consacre ces lauriers olympiques.
Ce jour est un jour de fête pour Athènes. Aucun de nous ne peut oublier que c'est à cette date que le peuple athénien, en décrétant il y a une année l'exil du tyran Hippias, a repoussé le péril d'un régime dictatorial.
Il y a environ 2500 ans, en l'an 510 avant notre ère à Athènes, le tyran Hippias était chassé du pouvoir par une coalition d'aristocrates, parmi lesquels un certain Clisthène. C'est lui, Clisthène, homme politique pour le moins remarquable, mais dont on ne connaît pas grand-chose, qui, trois ans plus tard, décida dans sa ville d'Athènes d'initier des réformes qui allaient être à l'origine d'une des plus grandes révolutions politiques de l'humanité, l'invention de la démocratie. La démocratie athénienne eut donc un début, grâce à Clisthène. Elle eut un développement extraordinaire, dont l'âge d'or fut le 5e siècle, le siècle dit de Périclès, mais aussi le 4e siècle. Âge d'or qui allait faire d'Athènes une capitale culturelle, artistique et philosophique, rayonnant dans tout le bassin méditerranéen. Et puis, elle eut une fin lorsqu'en 322 avant Jésus-Christ, les Macédoniens, qui avaient conquis Athènes, imposèrent à la cité un régime politique oligarchique. C'en était fini de la démocratie athénienne. Mais comment se fait-il qu'à un moment de l'histoire, à Athènes, une cité grecque sur un espace relativement restreint, on ait décidé que le pouvoir, le kratos, appartiendrait dorénavant au peuple, le démos, et qu'on créerait ainsi une démocratia? Que les décisions politiques seraient votées dans un scrutin direct par les citoyens réunis en assemblée, sans distinction de richesse. Encore plus stupéfiant pour nous, que les décisions de justice seraient prises, non par des juges professionnels, et par les citoyens eux-mêmes, tirés au sort et renouvelés tous les ans. Une révolution qui, nous le savons tous, et nous y reviendrons, excluait beaucoup de monde, les femmes, les étrangers et les esclaves. Pourtant, il s'agissait bien d'une révolution. Vincent Azoulay, ce qui se passe à Athènes à partir de 508 avant Jésus-Christ, est-ce que c'est bien une révolution ?
Oui, c'est une révolution. C'est véritablement un changement inédit dans l'histoire de l'humanité. C'est la naissance de la première démocratie formalisée de l'histoire. À travers des grandes réformes, effectivement, qui sont associées au nom de Clisthène, mais celui-ci n'aurait rien pu faire sans l'appui du peuple, et d'un peuple divers sociologiquement.
À quoi ressemble d'abord un peu de géographie, Vincent Azoulay? À quoi ressemble la Grèce et Athènes à la fin du 6e, début du 5e siècle? C'est une petite ville, c'est la campagne, ça ressemble à quoi?
D'abord, la Grèce, c'est plusieurs centaines de cités. Athènes n'est que l'une d'entre elles, mais très importante, mais comparée à nos nations modernes, c'est pas grand-chose. 2500 km², disons un ou deux départements français. C'est une ville, ce qu'on appelle l'astu en grec, et puis effectivement un territoire rural qui permet de la nourrir en partie. Mais entourée de montagnes et avec un débouché sur la mer, le port du Pirée.
Et combien d'habitants ?
On estime entre 350 et 400 000 habitants, et sur ce total, environ entre 50 et 60 000 citoyens au 5e siècle.
Et donc, qu'est-ce qui se passe exactement avec Clisthène? Quel est le régime politique jusqu'alors? Et pour quelles raisons, donc, il décide, avec d'autres, donc le peuple, d'entreprendre des réformes politiques qui vont conduire à la démocratie? Est-ce que ce changement s'explique par une crise?
Oh oui, une crise et même une guerre civile qui fait suite à une période un peu de glaciation qui a été celle de la tyrannie de Pisistrate et de ses fils, dont Hippias, dont on vient d'entendre parler. Et c'est effectivement après la chute d'Hippias, par une coalition d'aristocrates, que va éclater une guerre civile entre les élites qui auparavant étaient sous la coupe du tyran. Et la solution qui va être trouvée, une solution par le haut, où l'un de ces aristocrates, Clisthène, va s'appuyer pour le peuple pour mettre en place des réformes qui vont, d'une certaine façon, empêcher désormais les aristocrates d'accaparer le pouvoir.
C'est assez étonnant que ce soit un aristocrate qui décide, en tout cas, d'instaurer une démocratie, de faire appel au peuple, pour justement empêcher d'autres aristocrates de prendre le pouvoir. C'est étonnant.
C'est étonnant, et peut-être que l'une des conditions de l'apparition et de la pérennité d'une démocratie, c'est que les élites soient en conflit entre elles. Et donc,
divisées pour mieux régner.
Exactement.
Et donc ce Clisthène est un aristocrate, et quel est son intérêt à donner le pouvoir au peuple?
Donner le pouvoir au peuple, et le peuple le prend aussi lui-même, oui, à travers Clisthène, disons-le dans les deux sens.
C'est-à-dire qu'il y a une révolte
Oui, il y a une révolte, et Clisthène s'appuie sur le peuple pour effectivement prendre l'ascendant, et il va faire une réforme qui a d'abord une composante territoriale. Il va brasser la population, et en même temps l'augmenter. Il fait deux choses à la fois. Alors, brasser la population, c'est-à-dire que désormais, il va introduire des institutions qui vont fonctionner sur le rapprochement de citoyens qui, auparavant, ne se connaissaient pas. Des gens de la côte, des gens de l'intérieur et des gens de la ville. C'est un peu comme si Neuilly, Sarcelles et Brie-Comte-Robert se retrouvaient dans les institutions de la communauté et, par là, créaient une forme d'intelligence collective.
Presque
brassant
une nation, enfin...
Alors, une
c'est
nation,
un mot,
en tout cas une communauté politique capable de délibérer avec des intérêts divergents, mais réussissant à trouver des compromis.
On ne parle pas encore de démocratie à ce stade, mais d'isonomie. Isos, c'est égal, et nomos, c'est la loi. Donc, une même loi pour tous, c'est ça?
Oui, égalité devant la loi, et nomos, c'est aussi le partage. Donc, c'est vraiment une égalité aussi dans le partage du pouvoir qui se dessine.
Et donc, l'idée, ce n'est pas encore une démocratie, mais on restreint le pouvoir des aristocrates, c'est ça?
Oui, on restreint le pouvoir des aristocrates. On instaure notamment une assemblée qui va s'appuyer sur un conseil de citoyens tirés au sort. Et donc, venant de ces différents districts de l'Attique, le territoire d'Athènes, et c'est désormais l'assemblée, effectivement, qui va avoir le véritable pouvoir.
C'est déjà l'Ecclésia, ce qu'on appelle l'Ecclésia.
Déjà l'Ecclésia, effectivement, dès le départ, qui désormais décide de la vie de la communauté dans toute sa diversité et sa complexité,
donc
directement.
L'Assemblée, et il y a la boulée,
Il y a la boulet, le conseil, qui est composé de citoyens tirés au sort. Il y en a 500, à raison de 10 par tribu, seulement pour un an. Un autre grand principe de la démocratie athénienne, c'est-à-dire qu'on donne des charges, on donne du pouvoir, mais pas trop longtemps.
Il y a donc la boulet, vous en parliez, Vincent Azoulay, mais il y a aussi l'aréopage qui est toujours présent, qui représente l'autorité encore de l'aristocratie.
Oui, parce que l'aréopage est formé d'anciens magistrats choisis parmi les plus riches et au départ d'ailleurs élus et non pas tirés au sort, ce qui en fait plutôt un univers assez conservateur. Et à l'époque, ils ont certainement encore des grandes prérogatives. Ils peuvent notamment peut-être casser les lois qui sont votées à l'Assemblée. Donc effectivement, le régime s'avance vers la démocratie, mais celle-ci n'est pas encore pleine et entière.
Merci Vincent Azoulay. Dans le prochain épisode, nous verrons comment, après les premières réformes de Clisthène, la démocratie va véritablement naître à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle le siècle d'or de Périclès.